Bienvenue, vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. L'épisode 13 est consacré à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Bienvenue Alice Meyer-Bourdeau, vous êtes avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation et référente du réseau judiciaire européen pour votre ordre. Vous intervenez dans des séminaires qui traitent de la question de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Alors, le règlement du 20 décembre 2010, encore appelé règlement Rome III, est entré en vigueur le 30 décembre 2010, mais il est applicable seulement à compter du 21 juin 2012. Ça signifie donc qu'il s'applique à toutes les instances relatives à un divorce ou à une séparation de corps initiée après cette date ou à toute convention conclue après cette date. Il y a une petite exception, il peut aussi s'appliquer aux conventions de choix de loi conclues avant, pour autant que son effet est sollicité après le 21 juin 2012 et que le choix est valable en application du disposition du règlement. Ce règlement, contrairement à d'autres, ne s'applique pas dans tous les États membres. Certains États membres ont refusé d'y adhérer. Il met ainsi en œuvre ce qu'on appelle une coopération renforcée. Il s'applique donc seulement dans les États membres qui ont choisi d'y adhérer. À ce jour, les États qui font partie de la coopération renforcée sont les suivants. La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
Et qu'en est-il du champ d'application matériel ?
Ce règlement s'applique aux conflits de loi relatifs au divorce et à la séparation de corps, qui se posent devant les juridictions des États membres qui ont choisi d'adhérer à ce règlement. Concrètement donc, c'est le texte qui permet de déterminer la loi qui sera applicable au divorce ou à la séparation de corps. Le règlement précise qu'une loi unique, désignée donc par le règlement, s'appliquera à tous les aspects de la désunion des parties et quelle que soit la forme que prendra cette désunion. En revanche, la question de la validité de cette union ou les conséquences patrimoniales de la désunion, par exemple, ne relèveront pas du champ d'application du texte. Elles seront régies par d'autres dispositions.
Comment le règlement permet-il de déterminer la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ?
Le règlement instaure ici une véritable nouveauté pour le droit français. Pour la première fois, il introduit la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable à leur divorce ou à la séparation de corps. Jusqu'alors, ce choix n'était absolument pas possible. L'article 5 du règlement prévoit ainsi qu'il est possible pour les parties de choisir une telle loi. Ce choix se fait par une convention écrite, datée et signée. Il peut être effectué à tout moment jusqu'à la saisine de la juridiction. Quant aux lois que les époux peuvent choisir, ce choix est encadré. Cela signifie donc que les époux n'ont pas une totale liberté de choix. Ils peuvent seulement opter pour l'une des lois proposées par le règlement. Les époux peuvent ainsi choisir soit la loi de l'état de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, la loi de l'état de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un y réside encore lorsque la convention est conclue, ou la loi de l'état de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention. Et dernier choix possible, la loi du fort. Je vous donne un exemple. Si les futurs époux ou époux, tous deux de nationalité belge, habitent en France au moment où ils effectuent le choix de loi, ils peuvent choisir soit la loi française, soit la loi belge.
Et pour les époux qui n'ont pas fait de choix ?
Le règlement prévoit bien entendu également une règle pour déterminer la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps lorsqu'aucun choix n'a été fait. L'article 8 prévoit ainsi plusieurs critères de rattachement hiérarchisés. Ce terme d'hiérarchisé a son importance, puisque cela signifie que l'on regarde si l'un des critères est rempli en respectant l'ordre. Si le premier critère est rempli, alors on applique la loi désignée par ce premier critère. Une seule loi peut ainsi être désignée. Sera applicable donc la loi de l'État à défaut de choix, soit la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut, c'est ce qui sous-entend l'idée de hiérarchiser, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux y réside encore, à défaut encore, la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, la loi de l'État dont la juridiction est saisie. Et il faut rappeler qu'en raison du caractère universel de la règle, ainsi énoncée, la loi désignée pourra être celle d'un État participant au règlement ou celle d'un État tiers. Par exemple, si les époux de nationalité française ont vécu en Arabie Saoudite jusqu'en novembre 2021, lieu donc de leur dernière résidence habituelle, et que le mari y habite encore, au jour de la saisine de la juridiction, c'est la loi saoudienne qui s'appliquera à leur demande de divorce.
J'ai noté que souvent on allait aboutir à l'application d'un droit étranger. Est-ce qu'il existe des outils pour aider le praticien à accéder au contenu de ce droit ?
Cette dernière question constitue indiscutablement la grande difficulté du règlement. Comment un juge français ou un professionnel du droit va-t-il faire pour connaître le contenu du droit saoudien, si je reprends l'exemple d'avant ? Plusieurs outils existent pour l'aider. D'abord, il y a bien sûr toutes les sources que l'on peut trouver grâce à Internet. La liste des sites est très longue et je m'abstiendrai de la faire. J'en citerai principalement deux. D'abord, le portail eJustice, qui est un site conçu, alimenté et financé par la Commission européenne. Ensuite, le site JAFBAS. JAFBAS est une base de données de conventions internationales et de textes de droit de fond applicables aux litiges à composantes internationales, spécialement en matière familiale. Ce site a été créé et administré par un magistrat français. On peut bien sûr aussi avoir recours au réseau judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, si vous êtes juge français et que vous souhaitez avoir des informations sur le contenu du droit roumain, vous pouvez vous adresser au point de contact français qui, à son tour, interrogera son homologue roumain. Il y a encore la possibilité d'accéder au contenu du droit étranger via le mécanisme mis en place par la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, dite la Convention de Londres du 7 juin 1968. Enfin, on peut avoir recours à un professionnel du droit étranger qui établira une legal opinion ou un certificat de coutume. Un petit conseil, si vous êtes un professionnel de droit français en charge de la rédaction d'un tel avis, n'hésitez pas à faire précéder votre note d'un bref résumé de votre CV et des règles déontologiques ou de responsabilité qui vous sont applicables. Votre opinion en sera d'autant plus prise au sérieux. En tous les cas, on le voit. Un des prochains défis sera certainement de rendre encore plus facile et généralisé l'accès aux droits étrangers. Peut-être qu'une initiative de la Commission européenne serait intéressante. Elle pourrait, par exemple, prendre appui sur la Convention de Londres et faire une proposition de règlement.
Alice Meyer-Bourdeau, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.